les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Ils en ont rêvé, les Italiens l'ont fait. Enfin leur nouveau gouvernement. Repousser les migrants, ne pas les accueillir, voire les chasser. Souvenez-vous, c'était au printemps 2017, en Méditerranée, de jeunes identitaires affrétaient un bateau dit anti-migrant de 40 mètres pour essayer de repousser ceux qui tentent de rejoindre l'Europe par la mer. L'opération fut heureusement un échec, mais l'idée a fait son chemin. Au printemps de cette année, des militants d'extrême droite, issus également du groupuscule Génération Identitaire, ont trouvé une autre idée. En plein débat sur le projet de loi Asile et Immigration, ils ont entrepris le 21 avril l'ascension du col de l'Échelle dans les Hautes-Alpes et ils ont déroulé une sorte de filet de chantier supposé symboliser une frontière physique entre la France et l'Italie. Puis une centaine de personnes ont installé au sol des banderoles géantes sur lesquelles était écrit en anglais « Pas de passage, rentrez dans votre pays ». L'ensemble de l'opération était mise en scène avec des survols d'hélicoptères et de drones pour rendre les choses plus spectaculaires et probablement plus médiatiques. Une préfiguration sinistre du drame actuel de l'Aquarius. Heureusement, l'opération n'a fait de mal que dans les esprits et sur les réseaux sociaux. Et les jeunes extrémistes n'ont repoussé que les limites de l'indécence. Dès le lendemain, une contre-manifestation a d'ailleurs été organisée sur place. Au départ de Clavière en Italie, le défilé mêlant français et italien a rallié Briançon en passant la frontière. Une vingtaine de migrants faisaient partie du cortège, ils sont donc arrivés en France de cette façon. Et à l'arrivée, trois personnes ont été arrêtées. Elles sont poursuivies pour avoir facilité l'entrée irrégulière en France de ces 20 migrants. Les trois suspects ont été placés en détention pendant 10 jours, puis sous contrôle judiciaire. On les appelle désormais les trois de Briançon. Leur procès a été renvoyé le temps que le Conseil constitutionnel se prononce sur la compatibilité du délit de solidarité avec l'un de nos principes fondateurs qui s'appelle la fraternité. Aucune poursuite, en revanche, n'a été engagée contre les identitaires. L'histoire que nous vous racontons aujourd'hui se passe donc dans ces Hautes-Alpes, à Briançon. C'est une ville de 10 000 habitants située à 11 km de la frontière avec l'Italie, si on passe par le col du Mont-Genèvre, et à 37 si on passe par celui de l'Échelle, qui est le col le plus bas entre la France et l'Italie. Ici, depuis 2 ans, la population a vu le nombre de migrants augmenter après le durcissement du passage par la vallée de la Roya. En 2016, la préfecture a refoulé 315 personnes, 1900 en 2017 et déjà 713 entre janvier et mai 2018. Sur place donc, certains habitants ont décidé d'accueillir et de protéger les exilés et d'autres de les chasser. Nous sommes allés à leur rencontre, c'est un reportage d'Olivier Minot jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Bonjour. Vous êtes de Briançon ?
Ouais, je suis de Briançon. J'habite juste...
Vous faites quoi dans la vie ?
Moi, je suis saisonnier. Je travaille en magasin de ski. C'est location de ski l'hiver, location vélo, via ferrata, escalade l'été... C'est Serre Chevalier, c'est la grosse station des Hautes-Alpes. C'est les montagnes et ses à côté friqués. Et ça défile beaucoup. Il y a beaucoup d'Anglais, Hollandais, Allemands, Israël, Russie, beaucoup de nationalités qui viennent de partout, mais avec des sous. Du coup, ça gêne pas. Ça se mélange pas trop, Serre Chevalier. Non, mais c'est vrai. Après, Serre-Chevalier, ça s'étend jusqu'à Monnetier. Et du coup, non, les touristes qui viennent en vacances à Serre-Chevalier, ils restent vraiment sur la station. Les migrants, ils restent surtout sur Briançon. Moi, j'en ai ramassé vers l'Argentière, c'est à peu près à 20 bornes d'ici. Je les ai ramassés sur le bord de la route et je les ai amenés jusqu'au centre là pour les migrants, pour pas qu'ils se fassent ramasser par les flics ou par des fachos du coin qui sont complètement cons, qui sont capables de les ramasser, de les amener au poste ou... Moi, je me dis que les gars, s'ils se cassent de chez eux parce qu'il y a la guerre, s'ils traversent la Méditerranée alors qu'ils restent de se noyer, et s'ils se font chier autant pour arriver ici, c'est pas pour entretenir la forme, quoi. Je pense que c'est... Il y a un vrai besoin derrière et que, voilà, quoi, on peut pas les blâmer pour ça, quoi. Je pense que nous, un jour, si on est en guerre, on fera la même chose, quoi. On se cassera ailleurs et voilà, quoi. Je pense.
m'appelle Benoît. J'étais pas mal d'années accompagnateur en montagne, pisteur secouriste aussi. Un jour où j'étais en randonnée dans le secteur, au col de l'Échelle, je suis tombé dans la forêt sur 3 ou 4 migrants, là, je me souviens plus combien ils étaient, qui étaient cachés. Ils attendaient la nuit, sans doute, pour pouvoir prendre la route, quoi. Et donc là, voilà, ça a été un peu le choc. Et là, on s'est dit, bon, bah, il faut essayer un peu de mettre quelque chose en place de plus organisé. Les premières maraudes, elles se sont faites sur le col de l'Échelle parce que c'est quand même l'hiver le point de passage le plus difficile et que notre but, c'était quand même d'éviter des morts. Que le passage de cette frontière, ça ne devienne pas une deuxième Méditerranée. Et donc, c'était le 10 mars 2018. Ouais. C'était un jour de tempête de neige. Et au cours de cette maraude, donc, on circulait en voiture sur le col du Mont-Genèvre et on a vu depuis la route arriver un groupe dans la neige. Donc là, on s'est arrêté, on s'est porté auprès d'eux. Et donc là, on a vu qu'ils étaient 6 avec une femme enceinte et 2 jeunes enfants. Et puis 2 autres personnes qui les accompagnaient. Donc la maman était très fatiguée, elle s'était fait porter par ces 2 personnes qui les aidaient pendant toute la partie du trajet qui est dans la neige. Donc ça faisait un peu plus d'une heure qu'ils marchaient. Donc la maman était vraiment fatiguée. On a fait ce qu'on fait tout le temps, donner à manger, à boire, donner des vêtements chauds. Voilà, on a vu que la situation avait tendance à pas s'améliorer pour cette dame. Donc en discutant, elle nous a expliqué qu'elle était enceinte de 8 mois et demi. Et c'est là qu'on s'est dit, il faut vite l'emmener à l'hôpital de Briançon. Et peut-être qu'elle est en train d'accoucher, cette dame. Arrivé à Briançon, à l'entrée de la ville, à 500 mètres de l'hôpital, on a été stoppé par la douane. Ils nous ont contrôlé les identités, et on a eu beau leur expliquer la situation. Il n'y a pas eu moyen de leur faire comprendre qu'on était face à une situation d'urgence vitale, que cette dame était sur le point d'accoucher. Pourtant, ils la voyaient souffrir sur le siège avant de ma voiture, mais pour eux, c'était comme si rien ne se passait. Ils ont appelé le procureur, le temps que le procureur réponde pour savoir ce qu'ils devaient faire de nous, qu'ils appellent l'officier de police judiciaire de permanence, voilà, ça a pris quand même du temps. Et on a attendu très longtemps, du coup, avant que les pompiers arrivent. On est passé à 2 doigts de la catastrophe. Ils ont pris en charge la maman, ils l'ont emmenée à l'hôpital, et nous, avec le reste de la famille et les 2 personnes qui accompagnaient, on a été conduits au poste de police. Voilà. Donc moi, je suis resté 20 minutes au poste de police, le temps qu'ils fouillent mon véhicule et mes affaires personnelles et qu'ils me signifient une audition pour le mercredi suivant. Et je suis retourné le lendemain à l'hôpital pour prendre des nouvelles. Donc là, on m'a raconté que tout s'était bien passé, mais que quand même l'hôpital avait dû rappeler la PAF, la police aux frontières, pour les sommer de faire revenir le papa et les enfants qui étaient en route pour l'Italie, parce qu'on était en train de les ramener en Italie, alors que la maman était en train d'accoucher. Donc l'hôpital a bien insisté, finalement la PAF a fini par obtempérer, et ils ont pu être là pour l'accouchement. Voilà.
Je suis là parce que j'ai pas où aller. C'est pourquoi j'ai décidé de rester là. Au moins là, je dors pas dehors. Je viens du Cameroun.
C'est quand vous avez quitté le Cameroun?
Le 27 avril 2016. Pour des raisons que je préfère garder intimes, qui ne me permettaient pas de continuer à rester là parce que je risque un peu ma peau, quoi. Ouais. Je peux pas t'en dire plus. Je suis passé par la route, j'ai fait le Nigeria, Niger, Algérie. Algérie, j'ai fait 1 an. C'était pas dans le but de venir en Europe, c'est les conditions qui m'ont fait partir de l'Algérie. Parce que j'étais en Kabylie, les gens sont super sympas, mais j'ai été contrôlé par la police et que je n'avais pas de papiers. On m'a condamné 6 mois avec sursis. C'est ce qui a fait que je parte quand on m'a donné les 15 jours pour quitter le territoire. Et puis j'ai fait 5 mois en Libye, 3 mois de prison, 2 mois pour préparer le voyage. Ils te mettent en prison pour que tu appelles, pour des sous en contrepartie de ta liberté, quoi. Ouais. C'est presque le système. des passeurs qui nous font voyager, quoi. C'est un système pour eux de gagner de l'argent. Moi particulièrement, j'ai pas eu d'argent. C'est un mec, un passeur qui venait sortir les siens en prison. Et moi, je devais rester tout seul. Et il a eu pitié de moi, il m'a fait sortir. Et là, je suis resté avec lui, l'aider au quotidien pendant 2 mois avant qu'il ait de nouveau pitié de moi pour me faire voyager. Je sais pas si c'est de la chance, mais c'est un mec cool, quoi. C'est un mec très sympa. J'ai fait 1 semaine pour traverser l'Italie. Je suis arrivé à la frontière le 14 octobre dernier. Et là, je suis passé par Bardonecchia, col de l'Échelle. En arrivant à Briançon le matin, je longeais la gare avec des copains. On a été claqués par les flics. Ils nous ont ramenés à Mont-Genève. Le 15, on a fait pareil. On nous a toujours crappés à l'ancrée de la vie. Ils nous ont ramenés. Trois nuits de suite, on traversait. On nous ramenait à la frontière. C'est la 3e fois qu'on a pu. Parce qu'on n'a pas vu les flics ces nuits-là. Et je suis à Briançon. Le but, c'était de quitter mon pays, rester quelque part, avoir un boulot, m'occuper de ma famille à distance et rester tranquille, quoi. C'était le but. En demandant l'asile, j'ai déclaré que j'avais un fils et si jamais j'ai mon droit d'asile, je pourrais le faire venir. Il a 9 ans, mon fils, aujourd'hui, il a 9 ans. C'est le seul enfant que j'ai, je n'ai jamais été marié. Et vis-à-vis, on s'est séparés, l'enfant avait 6 mois. Je l'ai élevé tout seul. Du coup, il est avec mes parents. Je lui parle au téléphone. Il me demande tout le temps quand est-ce que j'irai le chercher, quand est-ce que je vais passer les fêtes de Noël avec lui. Bon, ça me touche un peu. Et bon, il a déjà compris que je ne suis pas à côté. Ouais. Pour le moment, je n'ai pas le choix. Je supporte, lui aussi il supporte, malgré que c'est dur autant pour lui que pour moi, quoi. Je compte le revoir. Si jamais je ne meurs pas aujourd'hui, je vais le revoir, c'est mon fils. Et il y a eu des gens qui sont arrivés qui ont eu des affaires aux identitaires. Particulièrement une personne en fait des identitaires l'ont pris, ils lui ont dit qu'ils sont la police et il s'est mis à fuir. Ça fait honte qu'il y ait des gens comme ça en France qui ont le privilège, eux, d'aller partout où ils vont. Moi, j'ai fait des demandes de visa pendant 2 ans en Suisse et en France. Je n'ai jamais eu parce qu'ils ne donnent pas les visas facilement aux Africains, quoi, pour l'Europe, quoi. Et eux, ils ne sont pas victimes des actes raciaux, mais qu'ils posent des actes de racisme. C'est honteux.
Alors moi, c'est Étienne Figueres, j'ai 20 ans, je suis de Lyon, je fais des études dans le management. Je suis militant identitaire depuis 4 ans maintenant. Je suis arrivé à l'âge de 16 ans. J'ai beaucoup suivi Génération Identitaire sur les réseaux, c'était vraiment un mouvement qui me plaisait par rapport aux idées qui sont basées sur une lutte contre l'immigration clandestine, l'immigration massive, contre l'islamisation de notre continent, de l'Europe. Et donc c'est vraiment les idées qui ont fait que j'ai adhéré à Génération Identitaire. La politique d'immigration qui est appliquée en Australie, c'est une politique zéro immigration. Et on voit que ça marche très bien chez eux. Par exemple, au niveau des morts en Méditerranée, l'Australie a tout bonnement aucun mort en Méditerranée, aucun clandestin qui tente la traversée. Donc c'est vraiment une politique sur laquelle on prend exemple. Alors on est tous, on s'est rejoints avec une centaine de militants de toute l'Europe. À Briançon, on est monté au col de l'Échelle dans la matinée, avec tout le matériel pour monter cette frontière, notre banderole, des rouleaux, des pieux pour monter la frontière, des sortes de cabanes pour marquer une sorte de poste-frontière. On avait 2 hélicoptères pour pouvoir tourner autour de cette zone, avoir une vue d'ensemble du passage pour voir vraiment le chemin qu'empruntaient ces clandestins sur le col de l'Échelle. On a emprunté tous les chemins qu'empruntaient les migrants pour se rendre compte du trajet qu'ils faisaient. On a pu se rendre compte que dans la neige, ils parcourent 150 mètres et puis ils ont une auberge, un point A, un point B. En fait, la traversée est quand même très très simple, loin de ce qu'on pourrait imaginer, de ce qu'on peut nous dire. On avait laissé les 3 pick-up garés en bas du col. Et on a de nombreux briançonnais qui sont venus nous voir pour nous féliciter, pour nous encourager, qui nous ont emmené des vivres. C'est vraiment les premiers moments où on a pu se rendre compte du soutien de la population sur Briançon.
On va au départ du col de l'Échelle. Moi, je m'appelle Jean-Gabriel Ravary. J'exerce le métier de guide de haute montagne depuis 42 ans aussi. Donc là, tu vois, là, je m'arrête exactement à l'endroit où cet hiver, on a vu un gros groupe, globalement d'hommes, super bien habillés, des vestes bleues ciel, des belles doudounes, il y avait des 4x4, on s'est dit, tiens, encore un trail, encore un séminaire, encore un événement, et en fait, comme événement, c'était les identitaires qui s'installaient, quoi. C'est une organisation qui a des moyens financiers, qui a une grosse logistique, parce qu'ils ont quand même héliporté des barrières, ils ont héliporté tronçonneuses, masses, et puis ils étaient vraiment ordonnés, quoi. Il y avait un chef, on sentait des gens entraînés, ça discute pas, c'est militaire, et il y avait 7 nationalités quand même. Et ils ont rôdé jour et nuit sur la route, ils sont montés jusqu'à la descente versant Italie. Après, il y a eu des bagarres sur ce qu'on appelle le Champ de Mars, en haut de Briançon, puisqu'il y en a qui ont chopé des migrants, ça s'est battu. Et puis, il y a des gens qui sont favorables à la question migrants qui les ont défendus. Enfin, voilà. Il y a un jeune qui avait un migrant dans sa voiture. Tout de suite derrière, il y avait un 4x4 identifié, Defend Europe, Mission Alpes. Et il s'est fait courser, quoi.
Donc la deuxième partie de la mission, ça a été vraiment un travail de terrain. On avait des équipes de surveillance qui étaient en place, dont je faisais partie. On a pu signaler une dizaine de passages de clandestins. Un soir, on était en place au niveau du col de Montgenèvre. On avait arrivé au loin un groupe de migrants clandestins. Donc on avait le numéro du poste frontière. Dès qu'on les a repérés, on a appelé le poste frontière pour leur signaler qu'il y avait des clandestins qui tentaient la traversée et pour qu'eux, de leur côté, puissent prendre la décision d'aller intervenir. Après, c'est le poste frontière qui déploie les forces de CRS, de gendarmerie, l'armée, pour aller récupérer les clandestins qui tentent cette traversée.
Vous, à aucun moment, vous avez dialogué avec des migrants ?
Non. Sur les chemins de randonnée, en fait, savoir que les passeurs, les associations vont disperser des vêtements pour indiquer le chemin aux clandestins qui traversent, vont appliquer des petits points de peinture sur les murs pour leur montrer quel chemin prendre jusqu'au bâtiment clandestin dans lequel ils les reçoivent. Nous, notre but là-dessus, ça a été de supprimer toutes ces balises, d'aller les nettoyer pour que ces passages ne soient plus marqués, ne soient plus accessibles.
Et là, cette cabane qui a été gentiment laissée ouverte par la municipalité nous permet, nous, de l'équiper rudimentaire, hein, mais au moins quelqu'un qui est dans la tempête, quelqu'un qui est trempé, là au moins il peut trouver un abri. Ils peuvent se faire aussi un petit feu et puis après poursuivre leur chemin. Là, je vais te montrer parce que donc là.
Donc c'est une toute petite cabane.
Nous, notre culture, c'est ça, c'est le refuge. On équipe avec des vêtements secs, on équipe avec quelques chaussures. Là, il y a 2-3 paires. Et au-dessus, on a des couvertures. Là, il y a un poêle à bois. Et les identitaires ont tout sorti et ont tout mis dans le feu là-bas, quoi. Et ça, c'est pas sympa, parce que c'est pas des... Quelle que soit la vie politique, c'est pas des manières. Surtout qu'ils nous ont laissé toutes leurs ordures. On continue notre route. Voilà. Et là, on se dirige vers l'endroit où l'été dernier, il y a deux migrants qui ont été apparemment poursuivis par les policiers et qui, leur seule issue, ça a été de passer une barrière. Et malheureusement, les conséquences, ça a été 40 mètres de chute. Donc, ils ont été traumatisés. Nos amis du secours en montagne sont intervenus et ont réussi à les sortir. Mais 40 mètres de chute, tu vas voir, en verticale. Il y en a un des deux qui est toujours en mauvais état, qui est... on ne sait pas comment il va s'en sortir.
On peut les repousser, on peut toujours leur faire demi-tour. Ces personnes qui arrivent, elles ne sont pas dans le grand besoin. On ne peut pas les accueillir tout simplement au niveau national, au niveau européen, on ne peut pas les accueillir, on n'a rien à apporter à ces personnes.
Ces gens-là, ce sont nos frères. Ce sont nos frères du Nord. Ils ne savent pas d'où ils viennent. C'est à nous de leur faire savoir qu'ils sont nos frères. Que même s'ils ont changé de couleur, qu'ils resteront toujours nos frères. Nous devons trouver des moyens pour les rassurer et surtout les faire comprendre qu'ils n'ont pas à avoir peur de nous. qu'ils n'ont pas à nous rejeter, qu'ils n'ont pas à nous maltraiter, qu'ils n'ont pas à nous faire du mal. Parce que nous, nous ne les ferons jamais du mal, jamais. Jamais.
Ce qui me fait peur, c'est que l'État les laisse faire. C'est ça qui fait peur. Le problème, c'est que l'État utilise ces gens-là. Ça, c'est gravissime. Que le procureur n'a rien trouvé à redire, qu'on les laisse parader, qu'on les laisse courser des migrants, que nos témoignages valent rien, ce que je suis en train de vous dire, ça vaut rien. Par contre, nous, on est emmerdés. Nous, on peut nous mettre en tôle. Mais c'est, ça, c'est grave.
Alpha, surtout et par-dessus tout, il faut te rendre hommage. Toi, l'enfant, l'homme, le frère. Ici, la terre pleure ton âme échouée. Pardonne-nous, Alpha, car nous n'avons pas su te sauver. Nous avons cru être...
Faire tout ce périple, tous ces milliers de kilomètres pour arriver ici, pour mourir, c'est affreux. Alors, il a sûrement de la famille, ce garçon. Ils ne sauront peut-être jamais rien de lui.
Cette personne qu'on a trouvée, en fait, on ne sait pas, voilà, on sait pas qui c'est. Ni depuis combien de temps elle était là. En fait, ce sont deux promeneurs qui ont trouvé ce cadavre à proximité du hameau des Alberts, sur la commune de Montgenèvre.
Qu'on ait défini une identité.
Il a été enterré sous X. Donc, ce qui laissait entendre que, de toute façon, du point de vue des autorités, ils n'avaient pas pu procéder à l'identification. Et puis, les pompes funèbres me l'avaient confirmé également. Je m'étais rendu, non pas pour cette personne, mais pour concernant l'inhumation de Blessing, où là, il n'y a plus de doute aujourd'hui sur l'identité de cette personne. En fait, aujourd'hui, on pense qu'il y a 4 décès sur les bras. Des histoires de guet-apens, on a beaucoup de témoignages et de courses-poursuites. Les migrants ne veulent surtout pas tomber dans les mains de la police, puisqu'ils savent très bien que s'ils se font prendre, c'est pour se faire ramener de l'autre côté de la frontière. Et c'est notamment le cas de l'accident qui a coûté la vie à Blessing, puisque les témoignages qu'on a recueillis des deux survivants montrent qu'on était dans le cadre d'une course-poursuite qui a amené les migrants aux abords de la Durance, qui en cette saison est extrêmement puissante. Et donc la moindre chute dans cette rivière peut être fatale. C'est des exploits qu'ils réalisent la plupart du point de vue montagne, alors qu'en plus ils ne connaissent pas du tout, pour eux la neige, tout ça, c'est un environnement totalement nouveau. Tous ceux qu'on recueille sont souvent dans un état de très grande faiblesse, et ils ont très soif. Ce sont des rescapés, c'est pour ça que l'assimilation aux migrants économiques est vraiment insupportable.
C'était le lundi matin, et quand je suis sortie de chez moi, c'était vers 9h, 9h15. Là, sur la route, j'ai vu passer un jeune. Il faisait froid, il avait sa cagoule, son bonnet, pas de sac à dos. Et il partait vers les Alberts. Alors moi, ça m'a un peu interpellée, parce que je dis, non, mais là, il a dû se perdre. Donc je descends, je vois ce jeune qui me regarde. Et puis, en se regardant, je pense qu'il a dû me faire confiance ou je ne sais quoi. Je me suis approchée de lui, il m'a tendu son portable pour me montrer l'adresse qu'il cherchait. Donc là, j'ai vu qu'il était perdu. Et je l'ai fait rentrer à la maison. Il s'appelle Roland. Il a beaucoup bu parce qu'ils sont complètement déshydratés. Donc il a mangé un petit peu. On voyait qu'il était, il bougeait dans la maison, il repartait au robinet. Alors j'ai essayé de l'apaiser. Je lui ai dit que j'allais téléphoner, que moi je pouvais pas l'emmener à Briançon, mais que je connaissais des gens qui allaient venir le chercher. Alors police, il avait vraiment peur. Je lui ai vraiment demandé quel âge il avait, s'il était seul. Il m'a dit « Non, je suis seule ». Donc, quand j'ai appris qu'il y avait un corps un jour après, je me suis dit « Non, mais là, il ne devait pas être seul. Il s'est passé quand même une catastrophe, quoi. » Disons que la rivière est très, très grosse en ce moment, avec les fontes de neige. Et donc, son corps a été retrouvé. Après, elle, c'est un village en contrebas de Briançon. Il y a un petit barrage hydraulique. Et son corps a été retrouvé contre le barrage, quoi. C'est le barrage qui l'a arrêté. Et je sais qu'après, quand on a fait notre veillée au bord du pont pour donc cette jeune fille, je sais qu'elle est tombée dans l'eau, quoi. Qu'ils ont dû être poursuivis. On pense que ça s'est passé dans le village. Quand ils sont arrivés à la sortie de la vachette, il y avait un contrôle. la police, voilà. Donc, je crois que c'était aux alentours de 5 heures du matin. Donc, ils ont paniqué. Et ils se sont enfuis sur la route de la Vachette, là, le premier hameau. Donc, il y en a un qui a été tout de suite pris et raccompagné en Italie. Et après, voilà, ce qu'on suppose, c'est que. Donc, cette jeune fille, Wessling, a dû, je ne sais pas, tomber dans l'eau, mais où. C'est l'enquête qui va le dire, quoi. Et Roland s'est caché, lui. C'est là où je l'ai recueilli, où il était un peu éperdu. Ça change mon point de vue sur la promenade en montagne, parce que moi, j'aime bien partir, là, ou en vélo, ou à pied, aller monter, où il y a des chalets là au-dessus. Mais maintenant, on pense différemment. Je sais pas, des personnes sont dans ce paysage et... qu'on n'a pas accueilli, qui voilà, qui meurt, qui passe en détresse, mal accueilli, voilà, c'est ça. Voilà. Excusez-moi.
Vu que je suis là, je voilà, 4 cadavres, oui, j'en ai vu, dont une femme, oui. Ça me gêne beaucoup de voir des gens mourir dans les montagnes. Juste le fait de voir la police et de paniquer, de sauter, ça me gêne beaucoup.
Ce mec, vous le dites,
le président français, Macron, il a frappé très fort. Le Spider-Man, l'araignée, le gosse qui a sauvé le bébé du 4e étage, Mamoudou Moutaga. Tout de suite, il a récompensé le gosse, oui. C'est de ça qu'on veut. Et je voudrais que cela soit... pour tout le monde, les sauveurs de vie, mais surtout pour ces gens qui, après avoir traversé le désert, la mer, la mafia italienne, les identitaires, ces gens-là, je pense que c'est des héros. Et ces gens-là aussi mériteraient le minimum de reconnaissance. Ces gens-là sont mes frères qui sont là, ce sont tous les réfugiés, c'est moi. Je pense que oui, si Macron a fait cela pour eux, Spider-Man, ben qu'il sache que nous sommes tous des Spider-Man.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec les migrants de Briançon et l'accueil qu'ils reçoivent. Un reportage d'Olivier Minot réalisé par Emmanuel Geoffroy. Merci à Boubacar, à Babar, à Justin, à Camille, à tous les résidents et bénévoles du Refuge Solidaire, à Mathilde, Mathieu, à Pierre Isnard, à Romain Espineau, à Michel Rousseau et à Charlotte Perry. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Et Céline Autain, c'est notre stagiaire.